France Inter.
Il y a celles qui marchent tout droit, il y a celles qui marchent tout court, celles qui battent le pavé, celles qui en ont balancé sur leur pancarte, elles ont écrit dans leurs esprits, elles ont gravé ceci. Christine Delphi, quand on dit aux femmes qu'elles exagèrent, c'est qu'en général, elles sont sur la bonne voie. Ou bien alors ceci, Gisèle Halimi. Le combat est une dynamique, si on arrête, on dégringole, si on arrête, on est foutu. Alors elles continuent, alors elles ont lu, alors elles ont repris. Simone de Beauvoir, c'est ainsi, on ne naît pas femme, on en meurt, on ne naît pas soumise, on le devient. Écrit à gros traits, écrit à la craie, sur du carton, souvent violet, elles ont la créativité des opprimés, et puis l'humour des cabossés, et elles sont fortes, et elles sont fières, et féministes, et radicales, et en colère, car elles le savent, et elles le montrent, et elles le vivent dans leur chair. Rien ne sera jamais plus puissant qu'une femme qu'on a voulu mettre à terre, et qui s'est relevée.
France Inter, En Marge.
Facho, vous nous cassez le clito. Macho, facho, vous nous cassez le clito.
J'aime beaucoup celle-là. Pour la sixième année consécutive, une grande marche contre les violences faites aux femmes se prépare. Ce sera samedi prochain à Paris et dans de nombreuses villes de France à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. Emmanuel Piette, bonsoir.
Bonsoir.
Vous y serez samedi ?
Bien sûr.
Vous êtes médecin en centre de planification, fondatrice du collectif féministe contre le viol. Vous avez connu l'arrivée de la pilule vue, la légalisation de l'avortement, les premières campagnes contre l'inceste, contre le viol, les violences faites aux femmes. Pourquoi on marche encore aujourd'hui ?
D'abord, on marche depuis bien plus longtemps qu'il y a 6 ans. On marche depuis très longtemps. Moi, j'ai des souvenirs de marche du 25 novembre depuis au moins 25 ans. Et là, cette année, on recommence. Et comme tous les ans, il n'y a pas de raison.
Et alors, pourquoi ?
Peut-être que les violences, c'est ça qui ne mêle pas sur l'inégalité entre les hommes et les femmes. Mmh. C'est cette possibilité d'être victime qui fait qu'on peut avoir peur et qu'on ne va pas protester trop, etc. Et c'est contre ça, fondamentalement, qu'on va marcher.
Mon corps, mon choix, ce slogan-là, il faut encore le marteler ?
Complètement. On a encore des tas de limitations au niveau de son corps et son choix. D'abord des limitations sociales, on doit être maigre, on doit être jeune, on doit être belle, et puis on ne doit pas avorter, on doit faire des enfants, on doit être dans une certaine norme. Et donc oui, on a encore des choses à dire sur son choix.
Emmanuel Macron promet l'inscription de l'IVG dans la Constitution. On va célébrer toute l'année le cinquantenaire de la légalisation de l'IVG. Il faudrait le graver dans le marbre ?
Il faudrait graver dans le marbre dans ses acquis actuels. Parce que graver dans le marbre qu'il y a un droit à l'IVG, c'est extrêmement dangereux. Parce qu'on peut décider qu'on a un droit à l'IVG pendant 5 semaines. Ou bien qu'on a un droit à l'IVG que si on est blonde. Je dis n'importe quoi, mais quand même, c'est ça. Actuellement, le droit à l'IVG, il est pour toutes les femmes, c'est leur choix. Et c'est jusqu'à 14 semaines, c'est même les mineurs sans autorisation parentale. Et c'est ça. Et on pourrait d'ailleurs augmenter les délais encore, etc. Donc le droit, gravé dans le marbre, un droit à l'IVG, moi, me semble un piège complet. Parce qu'il n'est pas décrit. Et on peut très bien, en ayant gravé dans le marbre le droit à l'IVG, se dire, maintenant, on ne fait que jusqu'à 5 semaines.
On l'entend, on le comprend, vous êtes une figure historique de la lutte pour la liberté et la santé sexuelle des femmes. Mais une fois qu'on écrit ça, on se dit, mais ça a quelle tête en fait, une figure historique ? Prenez ce miroir, Emmanuel Piette, prenez le temps de vous regarder. Dites-nous, qui vous voyez ou ce que vous voyez quand vous vous regardez ?
Ben moi.
C'est qui moi ?
Moi, Emmanuel Piette, avec mes années... Voilà.
Avec vos lunettes, carré, sans un pet de maquillage, bijou.
Non.
Jamais ?
Jamais.
Jamais, je veux dire.
Quelquefois, j'ai un petit collier, mais franchement, jamais.
Et pourquoi ?
D'abord, je ne peux rien avoir aux mains parce que ça gênerait. Comme métier, gynéco, c'est pas. Hein. Et ensuite, je ne vois pas l'intérêt.
Qu'est-ce que le féminisme a fait du rapport que vous avez à votre corps ou à votre reflet ?
Moi, j'ai toujours pensé que moins t'en mettais, plus tu te portais bien. Donc, le moins possible de falbala et autres.
Et vous foutez la paix.
Ouais.
Emmanuel Piette, ce soir, vous nous embarquez en marge avec à la technique Manon Houssin, à la réalisation Laurent Pauleret et Ophélie Vivier, chargée de programmation. Mitski, My Love is Mine, All Mine sur France Inter. Et oui, on va aussi parler d'amour ce soir, le vrai, le libre, le consenti, quoi. Emmanuel Piette, toujours prêt à en découdre quand les droits des femmes sont menacés. On ne peut pas dire que ce soit la cause la plus tranquille, la plus consensuelle qui soit. Vous, vous battez le pavé depuis 50 ans maintenant. Vous nous direz comment, vous nous direz pourquoi.
France Inter, En Marge, Julia Foyce.
Même un paysage tranquille, même une prairie avec des vols de corbeaux, des moissons et des feux d'herbe, même une route où passent des voitures, des paysans, des couples, même un village pour vacances, avec une foire et un clocher, peuvent conduire tout simplement à un camp de concentration.
Nuit et brouillard, Alain René, vous aviez 8 ans quand le film est sorti, est-ce que vous en rappelez ?
Oui. C'est un film pour lequel les parents qui avaient été tous les deux déportés ont pas mal parlé autour, alors qu'ils parlaient très peu. Autour de ce film, j'entends encore des bruits dans le salon. J'ai pas vu le film à l'époque, mais c'était des moments. Il y a eu ces moments-là, et puis il y a eu le Nuit et brouillard de Jean Ferrat un peu après ou pendant, je sais plus du tout. Mais je me souviens d'une copine déportée des parents qui y soit est arrivée ensuite en me disant voilà, ça y est, on parle de nous. Et pour eux, c'était vachement important.
Alors, ce nous, en l'occurrence, ce sont aussi vos parents, Raymond et Joseph, dites Gerbier et Pat, leur nom de résistants. Qu'est-ce qu'ils vous disaient de leur combat de ces années-là?
Rien du tout.
N'en parlez pas. Rien du tout.
C'était, je me souviens de ma mère racontant les rêves de spaghettis et de bouffe qu'elle avait fait en déportation. Mais sans ça, ils en parlaient extrêmement peu. Par contre, c'était tout le temps présent.
En quoi?
Parce que toutes leurs copines et leurs copains avaient été des vieux déportés. Et qu'ils se racontaient des... Paradoxalement, ils se racontaient des trucs qui étaient joyeux. Enfin, je sais pas comment dire ça. Mais ouais, ils avaient été en Sanar réquisitionnés à Saint-Selmose, parce qu'ils étaient tous tubards quand ils sont sortis. Ils pesaient 26 kilos, ils étaient tubards, il a fallu les soigner. Ils avaient réquisitionné un Sanar où il y avait eu des collabos, et ils ont fait les cinglés, quoi. Ils ont fait la fête pendant...
C'était ça qui racontait. Et pas le reste. Avec le recul, si vous pensez aux parents que vous avez eus petites, vous diriez que la guerre ou la résistance ou la déportation les a construits comment ?
Je dirais d'une part une certaine indifférence dans les trucs qui arrivent après. Enfin, je veux dire qu'une espèce de...
Rien n'est grave.
Voilà. Pour mon père, c'était ça. Et pour ma mère, c'était... je dirais bien quelque chose autour de « il peut m'arriver avec des merdes » ou quelque chose comme ça.
Une
ou,
forme de fatalisme,
ouais,
ouais.
Et puis,
un pessimisme.
Oui, ouais, terriblement. Et puis une anxiété, ouais. Vraiment. Et puis elle avait un gros syndrome, a posteriori maintenant. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est écrit dans ses rapports médicaux de pensionnés de 46-47. On décrit exactement un syndrome post-traumatique. Ils connaissaient ça, les médecins militaires. Ouais. Et je les ai relus il y a une quinzaine d'années. C'est-à-dire des reviviscences, des pensées intrusives, des cauchemars, des crises d'angoisse, des troubles du sommeil et de la dépression.
Et puis, votre mère, vous, elle avait déjà un passé assez lourd.
Oui, oui, elle avait été abandonnée par ses parents. Donc,
pourquoi
elle, parce qu'ils ne pouvaient pas la nourrir. Ils avaient 6 enfants.
C'est un milieu très populaire.
Un milieu très populaire, 6 enfants et le père gazé à la guerre de 14. Donc quand il est rentré de la guerre, il respirait plus, etc. Il a encore fait 2 enfants et puis il est mort. Et donc la grand-mère s'est retrouvée avec 6 enfants dont elle pouvait pas tout faire manger. Donc elle a gardé l'enfant de la DAS qu'elle avait pris pour aider le père qui construisait des petits jouets en bois. Et puis elle a abandonné les 2 dernières.
Dont
ma mère. Et puis la petite dernière qui n'était pas ma mère et qui a pas du tout supporté la séparation, elle l'a reprise. Et il y a que ma mère qui a été abandonnée. Donc du coup, elle avait déjà cet abandonnisme total et la déportation a rajouté.
Vous êtes née, vous, quelques années après-guerre, le 9 décembre 1949, très exactement, à la maternité de Suresnes. 10 ans plus tard, il y aura une petite sœur et vous avez grandi, toutes les deux, un peu partout, en fait, dans la périphérie parisienne. Vous déménagiez beaucoup. Pourquoi ?
Eh bien, parce que mon père était joueur. Ça, je pense que ça l'amusait beaucoup et que donc, de temps en temps, il perdait tout.
Et il faisait
coup,
quoi
il jouait dans les casinos. Ouais. Par ailleurs, il était commerçant, donc il jouait aussi avec les achats, les ventes, etc. Donc il perdait tout, donc on changeait de logement. J'ai souvenir de taudis, et puis tout d'un coup une jolie maison. C'est ça. Mais ça n'est pas un souvenir de. C'est pas un si mauvais souvenir que ça. Alors que ma mère en parlait comme quelque chose d'épouvantable.
Vous, petite, vous ne tenez pas en place, vous cavalez, vous grimpez aux arbres, vous courez, quoi qu'il arrive, vous bougez. Le seul capable de vous clouer au canapé, c'est lui.
Ah ouais.
Quel effet vous fait-il, ce Thierry Lafronde ?
Ah, il était joli garçon, tout le monde rêvait d'être Isabelle. Enfin, c'était, quand je regarde maintenant, c'est tellement macho que c'est plaisant. Mais c'était quand même... Et puis, il n'y avait qu'une seule chaîne, on regardait ça le dimanche soir. C'était juste avant le bain et le bouffer, et puis avant d'aller se coucher. Donc ça avait un côté... Ouais.
Mais à vous entendre, je me demande si c'est ce garçon, Thierry Lafronde, qui vous est rêvé, ou si vous rêviez d'être lui. Et d'avoir
cette latitude,
cette liberté, cette audace possible.
Enfin, c'était abattant, ça, il plaisait bien, quoi.
Ouais.
Mais après ça, c'est le souvenir de télé que j'ai dans ma carrière.
Quelle gamine est-ce que vous étiez ?
Ben, je pense que ça, c'est ce qu'on appelait garçon manqué. Hein.
Ouais.
Quand on a eu une maison stable, je devais avoir 10 ans. Et moi, je sortais de l'école. Non, j'étais avant, puisque j'étais en primaire, j'étais en CM1 quand je suis arrivée là. J'allais à l'école toute seule, je jetais mon cartable derrière le portique et j'allais jouer avec les potes. Donc, on allait chasser la grenouille pour vendre nos grenouilles à Rostand. On allait chasser la lucane. On foutait le camp dans les bois, quoi. Et on rentrait pour dîner.
Est-ce que vous avez reçu de la part de vos parents une éducation qu'on appelle aujourd'hui genrée ? Est-ce que vous avez été élevée comme une petite fille, c'est-à-dire, je sais pas, tiens-toi à droite et occupe-toi de ta poupée ?
Ah, tiens-toi à droite, oui, parce que c'était pas genré, c'était pour la santé.
Ok.
Mais occupe-toi de ma poupée, non. Et je vous dis, je balançais mon cartable sur le machin et j'allais jouer avec les gamins de la
Vous aviez conscience des différences entre filles et garçons, déjà, à l'époque ?
Pas chez moi. Mais quand j'allais chez les cousins, chez les amis des parents, c'était complètement différent. C'est-à-dire que, il y avait que les filles qui débarrassaient, il y avait que les filles qui mettaient le couvert, il y avait que, et il y avait une vraie différence de traitement. Et puis, chez certaines cousines, on ne payait des études qu'aux garçons et pas aux filles parce qu'elles allaient se marier. Donc, c'était vraiment une vraie différence de traitement importante.
Et à voir ça, vous disiez quoi, petite ?
Dégueulasse. Pas juste.
Tout bascule pour vous à 14 ans, votre père s'en va. Qu'est-ce que ça va changer au quotidien, dans votre vie, tous les jours ?
Déjà une énorme tristesse de ma mère, donc ça c'était compliqué quand même. Et puis, changement de maison, vu qu'il avait encore perdu et qu'il fallait donc vendre la maison, etc. Donc, on a été après dans un HLM. C'était moins marrant. Mmh. Inversement, c'est le moment où j'ai plein de copines, où je suis au lycée. Bon,
vous êtes adolescente et vous avez l'adolescence plutôt joviale, tranquille.
Ouais.
Vous ne reverrez votre père que le jour où vous deviendrez mère à 26 ans.
Pleure, pleure, Marivonne, ton ami, je te l'ai pris. Ça n'a étonné personne, le village en a bien ri. Ah, tu faisais bien ta fière quand il te donnait le bras. Pour la fête de Saint-Pierre, c'est à moi qu'il le donnera. Tu sais mieux que moi, je pense qu'il est bête autant que vous. Ça n'a guère d'importance car il lèche mes sabots.
Elle peut être féroce, hein, Sylvestre, dans ses textes, et c'est assez jubilatoire. Quelle idée est-ce que vous avez des hommes quand vous êtes adolescente ?
Que de toute façon, il ne faut pas compter dessus. Je pense quand même que c'est ça que le départ de mon père a fait. Quoi. C'est-à-dire que de toute façon, tu ne vas pas... Mais ça a confirmé quand même que tu ne pouvais pas compter vraiment sur... machin. Et ça a déterminé certainement pas mal de mes batailles.
Quelle place est-ce qu'ils occupent dans votre vie quand vous avez 16, 17 ans ?
Aucun, pas grand-chose. Pas grand-chose. Bon, j'ai des pensées amoureuses, mais pas... Voilà, c'est pendant les vacances, puis on laisse tomber.
Ça ne vous intéresse pas plus que ça, quoi ?
Non, pas vraiment.
Chez vous, on vous a parlé, votre mère vous a parlé d'amour, de désir, de sexualité, en vous voyant rentrer dans l'adolescence, en voyant la puberté arriver.
Ah non, alors chez moi, on ne parle pas de ça. J'ai des souvenirs d'avoir trouvé des vieilles... comment ça s'était ? C'était des... les poires à lavement, etc., en demandant à quoi ça servait, et de la voir devenir toute rouge. Je veux dire que vraiment, c'est pas des trucs dont on parle du tout. Je me souviens qu'elle avait eu du mal quand j'avais eu mes règles à expliquer. Oui. Je savais que j'aurais des règles, ce qui est quand même moderne, parce que c'est encore 50% des filles qui ont leurs règles sans savoir qu'elles vont les avoir. Oui. Mais que ça la gênait. Elle savait qu'il fallait le faire, ça la gênait énormément, donc elle avait déposé des petits livres d'éducation sexuelle, du planning sur ma table de chevet.
Ça, oui, c'est pas rien.
Mais elle ne parlait pas.
D'accord.
Et c'était assez rigolo. Donc voilà, oui, si elle a fait le job aussi bien qu'elle pouvait le faire, alors qu'elle pouvait pas le faire.
Tout ça va se libérer bientôt pour tout le monde. Un vent de fraîcheur va souffler sur la société française. Arrive mai 68, on en a tous et toutes des images en tête. Mais vous, pas vraiment, en fait, vous passez presque à côté de mai 68. Pourquoi ? Vous êtes où à ce moment-là ?
Non, parce que 68, ça n'a rien à voir avec les bonnes femmes. Ou très peu, en vrai. C'est bien au moins 2-3 ans après qu'on s'intéresse. Et c'est parce qu'on ne s'est absolument pas occupé des femmes, sauf pour pouvoir les sauter à Nanterre, que... c'est pas une question de femme, c'était une question de liberté d'homme.
Vous vous en préoccupez déjà à l'époque des femmes ?
Oui, bien sûr. Moi, je commence à me dire que je veux faire des études de médecine pour le droit de s'éclater. C'est-à-dire, à l'époque, la vraie égalité avec les garçons, ça serait pouvoir s'éclater tranquillement sans en payer les risques. C'est-à-dire la contraception et l'avortement. Et là où je peux servir à quelque chose... Et ben c'est là. Donc je fais des études de médecine en me disant, là je pourrais faire.
Et le déclic, c'est quoi ? Vous n'avez pas eu à avorter, vous n'avez rien préparé en émission.
Non.
Des copines autour de vous ?
Ah, j'ai des copines qui sont mortes d'avortement sceptique. Et puis il y a une copine, je ne dirais pas son nom parce que je ne sais pas du tout ce qu'elle est devenue, mais en troisième, j'ai une copine qui a été virée du bahut parce qu'elle était enceinte et qu'on ne gardait pas les filles enceintes. C'est-à-dire sa vie arrêtée, ses études arrêtées, interdiction de revoir les copines, etc. Simplement parce qu'elle est enceinte, c'est pas juste quand même. Et ça a été fondamental pour moi.
Donc, vous ferez des études de médecine pour ça.
Donc, je vais faire des études de médecine pour ça. Et que pour ça. Et franchement, j'en ai appris des trucs inutiles pour ça. Mais bon.
Mais 68 vous permettra d'avoir le bac. Vu le foutoir ambiant, tout le monde va le passer à l'oral. Ça vous arrange, vous êtes totalement dyslexique. Vous allez donc pouvoir faire médecine et vous allez pouvoir très concrètement aider les femmes à préserver leur corps, leurs droits, leurs choix.
J'ai de longs cheveux dans le dos, mi, 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 sol, fa, mi, ré, do. Et dans ma robe de percale blanche, chaque jour, y compris dimanche. Je vous charme d'un andantino, mi, 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 sol, fa, mi, ré, do. Pour préparer le conservatoire, maman fait mander tous les soirs de vieux messieurs habilités à venir vérifier mon doigté. Sur moi, ils ne posent pas leurs pattes. Maman l'interdit, mais constate que parti un machin collant scintille.
entre à l'académie. Sol, 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 fa, sol, fa, sol, mi. Faudrait se lever un peu tôt pour stopper mes petits marteaux et pour m'écarter de ces touches qu'avec des airs de Saint-Nitouche. Je flatte d'un diminuendo, mi, ré, mi, sol, fa, mi, ré, do. Car sachez-le, pauvre lourdeau, sous mes longs cheveux dans le dos, je suis une authentique teigne, teigne comme l'était Rubinstein. Pour remporter le prix Corto, j'ai joué comme on joue du couteau. Et pour épater les clampins, je suis prête à massacrer Chopin. Étant bien sûr considéré, sol, 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 mi, sol, do, sol, ré, qu'on me pardonne tout comme dit maman à cause de mon tempérament. On me décerne le titre Henri de petite bûcheronne du clavier, mais je me fous bien des remarques des puristes et des aristarques. Moi j'ai mes aficionados, mi mi mi, sol 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 dos.
Incomparable Juliette. Elle vous ressemble cette petite fille au piano, Emmanuel Piet, la teigne sous les cheveux longs.
Ouais, mais c'est surtout cette violence, cette violence qu'on a chez les enfants. Ouais. Ces viols d'enfants au motif de leçons particulières, c'est qu'on laisse faire quand même.
Qu'on sous protège le regard pas. De la mère, oui.
Et ça, c'est quand même tellement joliment dit, mais tellement dégueulasse.
Vous me disiez, avant qu'on commence l'enregistrement de cette émission, vous me disiez que seuls 5% des mères
protègent les enfants.
Et protègent leurs enfants quand elles sont victimes d'inceste.
Oui. Quand elles sont victimes de violences sexuelles, c'est seulement 5% des mères qui les protègent. Alors, il y en a qui sont mortes, il y en a qui ne sont pas au courant, mais il y en a qui sont terrorisées par les hommes, et puis il y en a qui sont complices, et puis il y en a qui sont jalouses. Mais les seuls 5% des mères qui protègent leurs enfants, on ne les laisse pas en ce moment les protéger, on les accuse de manipulation.
Le fameux syndrome d'aliénation parentale.
Oui, et on les met en tôle. Il y a des femmes en tôle parce qu'elles essayent de protéger leurs enfants.
Et qui perdent aussi la garde.
Et qui perdent la garde. Donc enfants, c'est vraiment le monde à l'envers, c'est une consigne de silence. C'est-à-dire, les agresseurs continuent à souhaiter garder leur chair fraîche. Et on en est quand même assez complices. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir changer. Et ça, c'est tout à fait important.
Cette injonction au silence, c'est ça aussi que vous avez vu, vous, dans la dernière campagne contre l'inceste, celle qui a été diffusée à grand renfort de communication à la rentrée, là. Vous ne l'aimez pas, cette campagne-là?
Ah non, je la déteste, parce qu'on voit une petite fille à qui papa a dit de la fermer, et qui la ferme. Donc,
il y a un message à la fin.
Oui, mais il faut savoir lire. Et puis, c'est pour les voisins. Et puis, personne ne lui dit qu'on la croira. Faire une campagne sur le secret et le silence, c'est pas juste pour les enfants. Ils ne peuvent pas comprendre qu'il y a des gens qui les croiraient. Déjà qu'ils ont du mal à le penser, et que quand on les croit, on tape dessus. Je pense que c'est vraiment important, quoi.
En marge, on mesure le chemin parcouru. Ce soir, on regarde devant celui qui reste à faire. Encore, vous êtes sur France Inter. Bienvenue, si vous nous rejoignez.
Marge sur France Inter.
Bien.
Vous allez, ma fille, vogue universitaire, et j'ai le devoir de vous avertir.
Ça, c'est sûr.
Puisqu'il faut parler de choses vulgaires, évoquant les feux qui vous font frémir. Évoquant les feux qui vous font frémir, qu'une femme honnête n'a pas de plaisir.
C'est quelque chose que vous ressentiez très fort à l'époque où chante Ferrat. Pour la société française des années 60 puis 70, une femme honnête n'a pas de plaisir.
Complètement. Ça, c'était vraiment. D'abord, c'est pas un truc dont on parle. Ensuite, elles avaient même pas de sexe. C'était des trous. C'était vraiment quelque chose autour de ça. On parlait pas de ça et ça se faisait pas du tout. Et une fille qui avait plusieurs copains, c'était une putain. Je dirais que ça n'a pas tellement changé, hein, et qu'on est encore dans quelque chose autour de ça.
Avec un double standard entre les hommes et les femmes et les filles et les garçons sur ce plan-là.
Ouais. Complètement. Et ta putain, une putain ou ta maman, ça reste la norme. Enfin, je veux dire, on est quand même dans quelque chose qui était massif dans ma jeunesse, mais qui reste très présent. Et je vois bien les gamines ou les femmes que je rencontre, enfin je veux dire que j'en vois une vingtaine par jour, et ben celles qui prennent leurs pieds, il n'y en a pas tant que ça. Et tout ça, bon, donc elles vont bien en général, mais la plupart des femmes ont encore des rapports quand elles n'ont pas envie, parce que c'est le devoir, parce que, etc. On est encore dans des trucs comme ça. Moi, je fais encore 3 certificats de contre-indication à rapport sexuel par jour.
Contre-indication à rapport sexuel ?
Oui, ouais. Ben, si ça ne te plaît pas, je te fais un certificat médical, parce que je trouve ça médicalement contre-indiqué de baiser quand on n'a pas envie. Mmh. Mais on voit qu'elles ont besoin de ça, parce qu'elles peuvent pas se défendre.
Parce que du coup, elles peuvent brandir le certificat.
Ouais, elle dit, ça y est, le docteur a dit, c'est pas bon pour ma santé. Ben, elles peuvent parler, se reposer. Et c'est quand même ça, encore maintenant, de nos jours.
Au tournant des années 70, vous êtes donc en fac de médecine. Comment ça se passe pour vous, la fac ? Décrivez-nous un peu l'ambiance.
Ah, moi, j'ai trouvé ça abominable. Pas tant la fac, les cours qui étaient tartes, mais je n'ai pas été beaucoup. Mais la fac, l'hôpital hyper sexiste. D'abord les patrons, beaucoup, beaucoup épouvantables. Hein. Moi, je me souviens d'un patron qui faisait sa visite en latin.
En latin,
dans les couloirs avec
pourquoi
deux. Ben, parce que ça faisait propre.
Ça faisait savant ?
Ben oui. Et puis, alors, moi, j'étais sûre, j'ai jamais fait latin ni grec, donc je ne comprenais rien. Mais j'étais comme l'usagère. Et c'est vraiment...
Ah, c'est ça, c'est pour que le patient ne comprenne pas.
C'est ça. Ouais. Je me souviens d'un patron qui a dit devant 50 personnes à un jeune garçon, ben on va vous la couper, il s'agissait de sa jambe. Donc c'est comme ça que le gars, devant 40 personnes, en bas d'un amphi, a appris qu'on allait lui couper la jambe. Je veux dire qu'ils étaient, pour moi, c'était l'horreur complète. Je me souviens d'un gars qui disait à une dame qui était en train de mourir d'un cancer de l'endomètre, bah c'est ça, vous avez fait trop d'avortements, tu vois, donc c'était punitif, pas gentil, ils étaient vraiment réac, quoi.
Et comment étaient traitées les étudiantes ?
Ah bah les étudiantes, comment dire, pas bien traitées, les internats, moi j'ai fui vraiment les internats.
C'est vrai ?
Ah ouais,
pourquoi ?
Bah parce que je me souviens d'un premier internat où j'étais externe de garde et où l'interne est rentré comme si c'était normal dans ma chambre puisque j'allais passer à la casserole et que c'était tellement normal que c'était... Donc je l'ai viré assez fort, mais c'était comme si ça devait être, quoi. Et c'était insupportable. Donc j'y couchais le moins possible, j'y mangeais le moins possible, et j'ai passé mon temps à éviter quand même.
Vous militez au syndicat étudiant, par ailleurs vous êtes femme de ménage à mi-temps, vous n'êtes donc pas souvent en amphi, mais vous charbonnez, comme vous dites, à la veille de chaque examen, et ça passe. Vous vous spécialisez en obstétrique, pourquoi ?
Ben pour faire de la contraception et de l'avortement, à l'époque c'était que ça, mais je me suis spécialisée 6 mois, parce que pendant un des premiers cours sur l'avortement... Donc à l'époque illégal, machin, etc. Le gars parlait évidemment pas de la méthode, puisque ça ne nous regardait pas, vu que c'était illégal, mais des complications. Mmh. Et le gars dit « rupture du vagin à la pose du spéculum ». Et moi je dis à ce moment-là « que quand on ne rompt les vagins que quand on met des spéculums pour avortement ». Et le gars m'a dit « sortez ». Donc voilà, ça a été mon passage. Ils étaient atroces. Enfin vraiment...
Avec les femmes et
la contraception, ils trouvaient ça dégoûtant. Enfin, je veux dire, l'ordre des médecins a été très opposé à l'avortement et à la contraception jusqu'à très longtemps, y compris après la loi.
Au fond, pourquoi ?
Ben parce que c'était des mecs et que le contrôle de la descendance, c'est la clé de la domination des femmes. Ces garçons veulent être sûrs que cet enfant est de et leur appartient. Du coup, il faut nous empêcher d'avoir des relations sexuelles avec n'importe qui, nous empêcher de contrôler notre descendance nous-mêmes avec la contraception. C'est un progrès étonnant, redoutable, qui est toujours menacé. On voit toutes les campagnes en ce moment, ça continue à être très menacé.
À l'époque, vous n'êtes toujours pas militante féministe au sens officiel du terme. C'est dans votre tête, mais pas concrètement.
C'est dans ma tête et dans ma vie. C'est-à-dire, techniquement, je me donne tous les moyens pour aider les femmes.
Mais vous n'appartenez pas à un collectif, à une association.
Non.
Néanmoins, à force de voir passer des femmes à l'hôpital en consultation, qu'est-ce que vous apprenez sur ce qu'elles vivent dans leur vie de tous les jours ? Qu'est-ce que vous voyez ? Quelles femmes, par exemple, vous ont marqué dans vos années d'études ?
Alors, c'est déjà quand je commence à travailler. J'en ai vu deux qui m'ont marqué terriblement pendant mon internat. C'est une... à la cité universitaire, à l'hôpital de la cité universitaire, une femme complètement infibulée, c'est la première fois que je vois ça.
Infibulée, on peut dire ce que c'est ?
Infibulée, c'est-à-dire qu'on t'a coupé une partie du clitoris, les petites lèvres, les grandes lèvres, et qu'on les a recousues pour laisser un tout petit trou par lequel sort le pipi et le sang, le même trou.
Et pourquoi on fait ça ? Enfin, au nom de quoi ?
On fait ça pour supprimer le plaisir des femmes et pour fermer le sexe qui sera ouvert le jour de la nuit de noces, au couteau ou à la lame de rasoir. Il y a des couteaux spéciaux qu'on trouve dans les marchés pour faire ça. Et donc, pour être sûr que la dame n'a jamais eu de rapport avant que monsieur mette la nouille. Et puis, qui sera refermé après chaque accouchement, dans des douleurs épouvantables. Donc, moi, je vois cette vue glabre, avec rien. C'est tout. J'avais jamais vu, je ne savais même pas que ça existait. C'est 72, 73... Et c'est donc après ça, je me suis documentée et c'est vrai que ça fait partie de mes premières batailles, c'est la lutte contre les mutilations sexuelles féminines. Et ça, c'est la première. Et la seconde, c'est une femme qui venait d'Algérie, toujours à la CTU. Elle était venue d'Algérie pour avorter parce qu'elle savait qu'elle était enceinte, mais c'était trop gros. Et en fait, c'est parce qu'il y avait des jumeaux. Et elle a accouché, elle a été obligée d'accoucher, et elle a abandonné les enfants. Mais pour elle, c'était terrible. C'était une fille qui était dans une école d'ingénieurs, qui avait couché avec un type qu'elle aimait. Et puis lui, il avait redoublé, pas elle, donc il était vexé, il voulait plus. elle pouvait pas. Et je crois qu'en Algérie, c'était pas possible d'être fille mère. Donc elle venait abandonner ses enfants, et elle est morte 6 mois après, tellement elle a pas supporté, quoi, d'une tuberculose galopante. Mais c'était plus qu'elle pouvait supporter, parce qu'elle c'était désormais avec un gars qu'elle aimait, puis finalement plus rien, et c'était invivable.
Vous êtes donc, j'imagine, très attentif quand le 26 novembre 1974, Simone Veil prend la parole à l'Assemblée.
Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager ? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame.
L'IVG est légalisée après des années et des années de lutte acharnée. Vous vous dites quoi à ce moment-là, Emmanuel Piet ?
C'est déjà ça. C'est bien. Elle, ouais. Elle pouvait pas faire tellement mieux, mais c'est vrai que c'était pas remboursé par la Sécu. Il y avait une aide médicale pour les très pauvres, mais c'était pas remboursé par la Sécu. C'était jusqu'à 10 semaines. Il fallait l'autorisation des parents. C'était pas pour les étrangères. S'il fallait que tu sois au moins depuis 3 mois sur le territoire national. Enfin, ça a progressé depuis. Mais c'était déjà, c'est ce qui était formidable. C'était que c'était la dame qui décidait de sa détresse. On a passé maintenant, t'as plus besoin d'être en détresse pour avorter, mais c'était, pour l'époque, une avancée formidable. J'étais très contente déjà. Après ça, on s'est battu pour le remboursement, pour la non-interdiction, pour la possibilité d'une mineure de faire ça en douce, de
l'allongement des délais,
des délais, la suppression de l'entretien obligatoire, enfin beaucoup de choses. Et puis la possibilité pour les étrangères. Et puis voilà.
C'est un chemin. Un an plus tard, en 75, vous aurez votre premier enfant dans la foulée de votre
16,
thèse. Bientôt suivra le second et puis le troisième. Un garçon, 2 filles en 6 ans, ça veut dire que ça y est, vous aussi, vous avez mis le pied dans la vie conjugale et familiale. Ça se passe comment ?
Alors, j'ai pas mis ça, c'était pas conjugal parce que je me suis pas mariée.
Vous vouliez pas ?
Non, je voulais pas, je voulais que les enfants aient mon nom. Et puis je voulais...
Pourquoi ?
Ben parce que dans l'idée, c'est un mec, ça se tire, et que donc, pour aller les chercher à l'école, j'aime mieux qu'ils aient mon nom.
C'est plus simple,
en général. Parce que, en général, c'est pas les mecs qui finissent par élever les enfants, donc je me disais, autant qu'ils aient mon nom. Le camarade avec qui j'ai fait les enfants était d'accord, enfin, ça ne posait pas de problème pour lui.
Vous dites camarade ?
Ben ouais, c'est un bon camarade.
Ouais ?
Ouais.
Mais camarade de lutte ?
Les deux, ouais, c'était quelqu'un avec qui j'étais dans les syndicats des études en médecine.
Okay.
Ouais, on avait mené des luttes ensemble et ouais, c'était bien. Et on a, il était d'accord pour que ça soit moi qui. La seule solution, c'était que je les reconnaisse d'abord et puis qu'ils viennent après les reconnaître.
Parce que ça se faisait comme ça à l'époque. Ils pouvaient porter votre nom pour peu que vous passiez en mairie d'abord.
Ouais, je suis d'accord. La première à les reconnaître. Il a mon nom. Voilà. Okay. Après ça, voilà. Donc c'est ça que j'ai fait. Moi, j'avais pensé que ça serait bien qu'ils aient les deux noms, mais c'était pas possible à l'époque. C'est maintenant possible. Donc ils avaient, s'ils voulaient, le nom d'usage avec leur père. Et on avait fait ça comme ça. Il s'appelait Piette, et puis ils avaient éventuellement D'accord. le nom du père. Voilà. Et puis, on a vécu un peu ensemble. Alors, quand on n'avait pas d'enfants, ça posait pas de problème. C'était en même temps le local syndical. Enfin, je veux dire, là où notre lieu de résidence, il y avait même la Renéo sur la baignoire. Je me rappelle parce que ces crétins collaient les stènes sur le carrelage et qu'après, il fallait nettoyer. Donc, c'était pour les garder. Mais après, ça, dès qu'il y a eu des enfants, je me suis dit que c'était pas possible de vivre qu'à deux. C'était...
Pourquoi?
Ben parce que c'est une bataille permanente pour les tâches ménagères. Si tu veux un peu d'égalité, ben faut que chacun y mette la main et spontanément, c'est pas ça qui se passe, quoi. Et donc, à ce moment-là, on a, ben, à partir du deuxième enfant, dès que le deuxième enfant est né, on a habité en communauté. Communauté dans laquelle ben, chacun... on avait
Communauté à combien ?
On a été entre 4 et 6 adultes et puis 4 et 5 enfants.
Communauté de vie, hein, on ouais, précise pas affective, pas communauté tout, de lit, voilà, communauté de vie quotidienne.
Voilà, c'est ça.
Comment se passe cette vie-là ? Comment elle s'organise ?
Ben, formidable, parce que, alors d'une part, chacun paye suivant ses moyens. Enfin, c'est, oui, c'est ça. Ouais. Donc, il y a un cahier où on met toutes les dépenses, puis après on paye au prorata de ce qu'on gagne et au nombre de parts. Et puis, ben, c'est chacun à un jour pour l'ensemble des tâches ménagères du mois. C'était le lundi. Alors le lundi, j'amenais les enfants qui allaient à la crèche, à l'école, j'allais bosser. Je revenais pour la sortie d'école à 4h30, chercher la crèche, faire le ménage des parties communes, faire la cuisine, faire le repas des enfants, puis le repas des adultes. Et après, je suis en vacances toute la semaine. Et ça, c'est le bonheur total. Donc, et ça a duré 20 ans.
Très vite, après la fin de vos études, vous rejoignez un centre de protection maternelle et infantile à Bobigny. La contraception est désormais légale et accessible. Ça change quoi pour les femmes que vous recevez ?
C'est ça qui m'a sidérée, moi. C'est parce que nous, on avait pris des cocktails qu'on se faisait nous-mêmes, dosés 50 fois plus que les pilules qui existaient à l'époque. Et on supportait super bien parce que c'était agréable de s'éclater. Et là, devant moi, j'avais des dames qui avaient mal aux cheveux, mal au ventre, grossissaient, maigrissaient, étaient tristes, gna gna gna. Tout ça à cause de cette fameuse pilule. Et donc, ça a été une évolution fondamentale. Il y a des labos qui sont mis là-dessus et des collègues en disant on va faire des petites dosées, des trois couleurs, des bleus, des roses, machin, etc. Des deuxième, troisième, cinquième génération, donc un peu de quoi faire un peu de blé. Et puis, on n'a pas été beaucoup, mais à penser que c'était pas ça, que ce qui n'était pas supportable, c'était de prendre un truc tous les jours si on n'a pas les rapports qu'on a envie d'avoir, si son copain est toutes les 6 semaines, il revient que toutes les 6 semaines, manger un truc tous les jours, ça énerve. Et même coucher avec un gars que t'as pas envie tout le temps, ça énerve aussi, d'être toujours prête.
C'est ça, la contraception, l'effet direct sur un certain nombre de femmes, ça a été ça, c'est que du coup elles étaient disponibles tout le temps, elles n'avaient plus...
Et qu'elles n'étaient pas obligées, qu'elles étaient obligées de penser qu'elles n'avaient pas... Avant elles disaient je vais être enceinte, j'ai pas envie, machin, etc. Ils pouvaient comprendre quelque chose. Mais là, elles étaient toujours prêtes et elles n'arrivaient pas à se le dire. Et c'est ça ça fait partie de ça qui fait que je l'ai commencé à me demander ce qu'elles pensaient des rapports qu'elles avaient. Et puis j'ai eu deux histoires tout à fait au début qui ont fait que je suis rentrée dans l'histoire des violences. C'est la première, une dame qui était sur la table de gynéco à qui je réparais une épisiotomie tout à fait dégoûtante. Donc elle a du pu, je nettoie et tout. Puis je parle comme je parle tout le temps et je dis il faudrait pas de rapport là. Et la dame dit rien, puis tout d'un coup elle dit mais c'est pas moi qui décide, vous savez. Alors là, moi, ça me la cloue un peu. Et je dis si c'est pas vous, ça va être moi. Et c'est fait comme ça que j'ai fait mon premier certificat de contre-indication au rapport sexuel. Alors, elle est sortie de la table, j'ai écrit, je sous-signé docteur Piette, certifie que l'état de madame Michu contre-indique tout rapport sexuel. 15 jours. Et la dame a dit, vous pourriez pas mettre plus. Et c'est comme ça que j'ai compris que, ben voilà, pour elle, elle pouvait pas faire autrement. Et puis, la deuxième, c'était, j'ai le cheveu jaune mais qui pète. Et puis, c'était la mode des mèches, comme maintenant, ça recommence. Hein. Et moi, je fais 2 mèches rouges. Et dans ma matinée de consultation sur 20 femmes, il y en a 2 qui m'ont dit « À vous aussi, docteur. Il vous bat votre mari. » Et c'est comme ça que j'ai compris que si tu disais que t'étais de la bande, on te parlait. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit...
Et pourquoi aux cheveux rouges vous étiez de la bande?
Parce que ça pouvait être que du mercurochrome. J'avais été blessée par mon mec et donc voilà, c'est pour ça que j'avais du rouge. Donc elles n'avaient pas trouvé ça joli. Donc j'ai changé de couleur et puis je me suis mis à questionner systématiquement toutes les personnes. Et ça, c'était en 75.
Parallèlement, la société française dans son ensemble va aussi ouvrir les yeux sur les violences faites aux femmes. Deux jeunes touristes belges, un couple de femmes, sont violées par cinq hommes alors qu'elles campent dans les Calanques près de Marseille. En 77, Gisèle Halimi est leur avocate. Comme elle l'a fait six ans plus tôt pour l'IVG à Bobigny, elle veut faire de cette affaire le procès du viol.
Quand une femme est violée, on commence par dire mais elle n'avait qu'à pas porter un jean collant, elle n'avait qu'à pas sourire, elle n'avait qu'à pas sortir, elle n'avait qu'à pas, à la limite, elle n'avait qu'à pas exister en tant que femme. Et à la cour d'assises, nous demandons, c'est une des propositions de loi que Choisir va déposer incessamment sur le bureau du garde des Sceaux et à l'Assemblée nationale, qu'il n'y ait pas de huis clos, c'est-à-dire, sauf bien entendu, la seule réserve, si la jeune femme violée le réclame elle-même. Nous voulons donc la publicité. Cour d'assises et publicité. Parce que nous pensons que une chose pour un homme est de violer et autre chose est de vouloir qu'on le sache dans son village, dans son travail, dans les journaux.
On sait que les hommes, tout de même, un jour, violeront de moins en moins.
Vous savez, moi, si je mène ces luttes, c'est que je dois être optimiste, autrement je ne les mènerai pas. Je pense qu'en tout cas, l'enjeu est très important. Vous savez, ça n'est pas un procès de viol, l'enjeu. Ce n'est pas une condamnation ou un acquittement. L'enjeu, c'est changer les rapports fondamentalement entre les hommes et les femmes. Il ne peut pas y avoir de société où le couple, au plan de l'amour, soit basé sur un rapport de force physique. Je dis que c'est quasiment du fascisme.
On y est arrivé là, à changer les rapports entre les hommes et les femmes ?
Pas encore. On ne peut que progresser. C'est vraiment, quand on écoute cette archive, finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé, parce que on continue à demander à la femme comment elle est habillée, si elle a pris son pied, si...
Alors concrètement, ça a quand même débouché sur l'inscription dans le code pénal du viol tel qu'on le connaît. Aujourd'hui, cette affaire-là.
La loi de 80, voilà. Tout acte de pénétration sexuelle commis par menace, contrat de violence ou surprise, ça c'est bien. Ouais. On a reprogressé avec la loi du 21 avril 2021, puisque maintenant, si t'es un mineur de 15 ans, si un adulte pénètre ou... Et ben là, c'est un viol, il n'y a pas besoin de prouver la menace, la contrainte, la violence ou la surprise. Et si c'est par inceste, c'est 18 ans. C'est assez fondamental.
Donc dans la loi, ça continue à bouger.
Et ça va encore continuer.
Dans les mentalités, c'est pas encore tout à fait le cas. On va en reparler. Mais à l'époque, en fin des années 70, vous êtes très proche, vous, de l'équipe du planning familial, sans en être membre encore. Vous les voyez s'ouvrir à la question des violences sexuelles et vous êtes avec elle là-dessus. Alors vous aussi, cette chanson, vous la connaîtrez par cœur.
Mon corps peut sauter, courir et danser. Il s'élance dans les airs et retombe sur ses pieds.
Qu'est-ce qu'on entend là ? Mon corps, c'est mon corps. C'est quoi ?
C'est la chanson du programme québécois Mon corps, c'est mon corps, qui est un programme de prévention pour les enfants et que nous avons fait en Seine-Saint-Denis entre 86 et 2017 à montrer à tous les enfants de maternelle et de CM2.
Ça veut dire que le milieu des années 80, c'est un peu comme aujourd'hui une période de grande prise de conscience, de campagne, de... où on parle, ce qu'on dit beaucoup, MeToo, la parole se libère, on oublie que les femmes et les enfants tentent de parler depuis longtemps, et qu'il y a eu d'autres périodes comme ça.
Il y a eu, à partir de 86-87, une énorme prise de conscience publique sur les violences sexuelles à enfants. Il y a eu Eva Thomas à la télé, nous on a fait plein d'émissions de télé pour dire grosso modo les mêmes choses qu'on dit en ce moment, c'est-à-dire les violences sexuelles à enfants, ça existe, c'est massif, ça abîme considérablement les enfants, et c'est interdit par la loi, c'est des trucs de base quoi.
Et c'est le moment aussi où le collectif féministe contre le viol ouvre la première ligne d'écoute anonyme et gratuite pour les femmes victimes de viol et d'agressions sexuelles. Ça se fait dans quelle ambiance ça ? Vous vous souvenez, on est en 86.
Ouais, alors on a commencé, elles ont commencé, parce que moi je m'occupe pas de ça au départ, elles ont commencé à vouloir protester contre le viol parce que plusieurs viols sur la voie publique avec à Magenta, je crois, une femme violée devant 80 personnes qui ne sont pas intervenues et qui ne sont même pas intervenues après pour lui dire venez, on va vous requinquer, rien. Et ça, 2, 3, 4 fois des viols comme ça. Et donc ça a énervé toutes les assos féministes qui traînaient, donc le planning, Solidarité Femmes, la Maison des Femmes, Jeunes Femmes, etc. Elles se sont mises en collectif pour essayer de remobiliser la population à l'idée que c'est pas tolérable les viols, que c'est des violences insupportables, etc. Et ça a rencontré envie d'Yvette Roudy à l'époque, ministre des Droits des Femmes, qui voulait et qui a proposé à ce rassemblement d'associations formées en collectif de tenir une ligne téléphonique. Et c'est comme ça qu'elles ont commencé.
C'était il y a près de 40 ans. Aujourd'hui, oui. Vous recevez les appels de 75 000 personnes différentes chaque année.
Ah non, on a reçu en tout 75 000 personnes différentes qui ont appelé pour un viol ou une agression sexuelle.
Est-ce que aujourd'hui, les femmes qui appellent sont pas les mêmes? Est-ce qu'elles disent pas les mêmes choses? Ou est-ce qu'au contraire, on est sur un constat de stabilité, de permanence, de... Vous direz
alors,
quoi?
Au début, il y a eu vraiment une découverte. Hein, en 85-86, les femmes qui ont écouté les militantes, etc., elles étaient sur les viols de femmes adultes, un peu le stéréotype habituel. Et puis, dans la première année de l'écoute, on a 2000 appels. La moitié de ces appels concernent des viols dans l'enfance. La moitié de ces appels, et avec des choses qui étaient du genre, moi j'ai été violée à 4 ans, j'en ai 80, jamais personne ne m'a cru, c'est la première fois que je parle à quelqu'un qui me croit. Et puis une petite fille de 11 ans qui disait, hier j'ai mis des punaises, demain j'ai mis des ficelles, qu'est-ce que je fais après demain s'il revient? Et ça, comme ça. Donc c'est une première année de découverte et où tout le monde tombe de l'armoire. Maintenant on sait, c'est toujours la même chose, c'est entre 50 et 60% des personnes qui nous appellent pour des violences sexuelles dans l'enfance. Donc ça, c'est constant. Et puis, ce qui a raccourci, c'est le délai avec lequel elles nous appellent. Au départ, elles nous appelaient très longtemps après les faits, parce que elles avaient gardé ça, personne n'avait pu entendre avant. Là, maintenant, c'est quand même moins il y a longtemps. Et puis après, il y a eu des...
Ça veut dire qu'il y a une plus grande conscience.
Il y a plus d'endroits où elles ont pu parler, ouais. Où on les a entendues quand même. Ouais. MeToo a beaucoup, considérablement augmenté. Et puis depuis deux ans, nous tenons la ligne de la Civise. Parce qu'au moment...
La commission indépendante sur l'inceste est créée il y a deux ans.
Parce que elle a été créée en mars 2021.
Oui, c'est ça, on est à 2 ans et demi.
Et quand elle a été créée, moi je savais qu'on savait faire, puisque ça faisait 30 ans, 35 ans qu'on entendait des appels pour violences sexuelles dans l'enfant dans 50 à 60% de nos appels. Donc on savait répondre, on savait faire. Donc je suis allée voir la commission en leur disant qu'on pouvait, s'ils voulaient, gérer leur téléphone. C'est ce que nous avons fait dans cette ligne violences sexuelles dans l'enfance. 0805, 802, 804. Mmh. Et là, on a eu de nouveau des hommes qui nous appelaient pour des viols qu'ils avaient eus depuis longtemps. C'est pour ça qu'on avait choisi ce nom-là, pour que les garçons puissent nous appeler, 20% de nos appels. Et on a eu, de nouveau, beaucoup plus de viols dans l'enfance. Mais quand même, c'est quand même terrifiant. Et puis ce qu'on a eu, c'est ces 5% de mères qui essayent de défendre leurs enfants. Et ça, c'est catastrophique.
Vous restez avec nous, Emmanuel Piette. Je redonne le numéro du numéro vert Viol Femmes Information. C'est le 0800 05 95 95. Quant à celui de la Civise sur les violences faites aux enfants, c'est le 0805 802 804. Et ça, c'est Olivia Ruiz sur France Inter.
J'aime te surprendre, te sentir dérouté. Je m'amuse à tout fendre quand tu te mets à douter. J'aime que ça parte du ventre et du bassin. Je libère mon centre de son dessin. Mon instinct est mon phare, mon labeur contrôle. Les divagations de mes pensées, je connais bien mes termes et je sais comment me dépasser. Ça part du ventre et du bassin. Je libère mon antre de son destin. Je suis de celles qui nagent à contre-courant, qui refusent le sens du vent, qui refusent d'être la réplique. Personne ne peut attraper, ni tenter d'emprisonner, sans que je réplique, que je réplique, que je réplique. Vale, ahora te escucho, pero no hablas mucho. Cuando una mujer se afianza, esto te cierra la boca. Vale, ahora te escucho, pero no hablas mucho. Qué pequeño estás, sin tu ejército atrás. J'aime me suspendre au fil de tes pensées. Je m'amuse à le tendre, le dénouer, le couper. J'aime que ça parte du ventre et du bassin. Je libère mon antre de son destin. Pero no hablas mucho.
Cuando una mujer se afianza, esto te cierra la boca. Vale, ahora te escucho, pero no hablas mucho. Qué pequeño estás sin tu ejército atrás.
Olivia Ruiz qui nous revient enfin avec ce titre, La Réplique. Comme tous les samedis, Djoubaka signe notre programmation musicale. Vous en retrouverez toutes les références sur radiofrance.com à la page de l'émission.
France Inter, En Marge.
Des bruits d'oiseaux, des bruits de marteaux, des clous qu'on plante, la nature. Où ça, Emmanuel Piette ?
En Dordogne, dans ma maison.
Où vous rénovez des maisons, vous construisez des cabanes.
C'est ça.
Quand vous ne marchez pas pour les droits des
cabane,
femmes.
D'ailleurs, je préfère bungalow, ça fait plus chic. Mais enfin,
d'accord.
C'est bien du.
Quand vous ne marchez pas pour les droits des femmes, vous construisez des cabanes. C'est ça l'idée ?
Dans la forêt.
Ça, ouais. Ça vous repose de la lutte ou au contraire, ça vous allez reprendre une énergie nouvelle pour.
C'est la même bataille pour que le truc tienne, que ça fonctionne. C'est ça, c'est le plaisir de construire des trucs, de faire des trucs, de fabriquer. Ça, j'aime beaucoup.
Et dans ces bungalows, on pourrait entendre quelque chose comme ça.
Tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être, tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile, si c'était moins difficile.
Anne Sylvestre, ouais. Encore et toujours, est-ce que vous diriez, comme le dit de Beauvoir d'ailleurs, les droits des femmes sont jamais acquis. Pour rester vigilant une vie durant, il faut écouter Anne Sylvestre toute sa vie pour se rappeler de la fragilité, non pas de vos bungalows, mais des droits des
c'est
femmes.
C'est vrai qu'ils tiennent, ça me sidère toujours.
Eux
d'ailleurs.
Au moins ils tiennent.
Mais c'est vrai que c'est la première chose qu'on casse, c'est le droit des femmes. On voit ça dans toutes les... On voit ça sur la planète déjà, on est sur une planète où seulement un tiers des pays... donne le droit aux femmes d'avorter. Mmh. On voit ces reculs extraordinaires
aux États-Unis,
aux
en, Pologne,
États-Unis
ouais.
en Pologne. Et on voit que c'est attaqué tout le temps. Dès qu'il y a des reculs sociaux, dès qu'il y a de la misère, etc., c'est les droits des femmes qui sont attaqués. C'est une vigilance permanente.
Est-ce que le fait que les violences faites aux femmes soient une grande cause nationale depuis 2018, est-ce que ça a changé quelque chose ?
Alors moi, l'expérience que j'avais déjà eue des grandes causes nationales, c'était la première série de quand on avait commencé à travailler sur la protection de l'enfance et où on avait magnifiquement réussi et où tout d'un coup, en 97, ils nous font grande cause nationale la protection de l'enfance. Et là, j'ai compris ce jour-là que c'est quand ça un truc qui agite tellement la société que c'est il faudrait faire quelque chose qu'on n'a pas en moyens et qu'on n'a pas envie de faire grand-chose, on fait une grande cause nationale. Et puis après, c'est pas obligé de ça suffit en soi, quoi.
Ça, ça rassure et tout le monde, ça, on dit on fait quelque
et puis,
chose
ça y est, et puis on peut passer à autre chose. Ah, vous avez la grande cause nationale, ça suffit, il dégage. Voilà, moi je suis toujours inquiète quand on me fait une grande cause nationale parce que je me dis il se rend compte qu'il faudrait faire quelque chose, il a pas envie. Et ben voilà, il nous fait une grande cause nationale ou une commission. Avec l'idée que, comme ça, on sera contente.
Et une grande consultation, par ailleurs.
Ça, c'était une nouveauté. Mais c'est des choses autour de ça. C'est-à-dire que je pense que, oui, la grande cause nationale, ça a des avantages, on en parle. Mais ça ne suffit pas d'en parler. Il faut faire des choses.
En marche, c'est terminé pour ce soir. Emmanuel Piette, merci infiniment. Toutes les infos sur les marches du samedi 25 novembre. Je dis les parce que c'est à Paris, dans de nombreuses villes de France. Vous les trouverez notamment sur nous toutes. On se retrouve, nous, la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.